Oui.
Dans cette édition, on ira à Mataya pour l'inauguration de la centrale agrivoltaïque de Manu Solar. On ira aussi faire un stop au CESEC et puis on parlera aussi des associations du Fénois que le pays souhaite mieux accompagner. Le journal de midi, c'est avec Vaïtiéré Pereir. Bonjour Vaïtiéré.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Une nouvelle grande ferme solaire inaugurée à Mataya.
Oui, après Manao Hiupe du groupe Siu à Taravao, c'est le groupe MOOX qui a lancé sa centrale photovoltaïque, ou plutôt agrivoltaïque, puisque l'idée est de produire à la fois de l'électricité et des produits agricoles. Charlie René, vous êtes sur place.
Oui, et je ne suis pas seul. De nombreux élus, dirigeants d'administration, chefs d'entreprise ont fait le déplacement, comme d'ailleurs deux ministres et le président Moetei Brotherson. Il faut dire que cette ferme à 2,4 milliards de francs se veut tourner vers l'avenir. Et pas seulement avec ses 42 000 mètres carrés de panneaux solaires, ses 14 000 pieux et ses batteries et les 2 millions de litres de gasoil qui vont être économisés chaque année. L'innovation se trouve aussi en dessous des panneaux. Une partie est surélevée pour former des serres sous lesquelles vont pousser de la vanille, des légumes et même du café. L'autre moitié est plus proche du sol pour faire de l'élevage, comme c'est aussi le cas d'ailleurs à la ferme Manao Hiupe. Cette double utilisation du foncier a été encouragée lors du premier appel à projet du pays pour les fermes solaires en 2022. Elle sera même obligatoire lors de la prochaine tranche d'appel d'offres. D'après Moetei Brotherson, elle devrait être lancée dès le mois de janvier 2025.
Et vous l'avez dit, Charlie, sous ces panneaux solaires, il y a de l'agriculture et il y a même des moutons.
Et oui, c'est une des nouveautés permises par ces installations. La STA Veiria, qui est propriétaire du terrain et qui est gérée par Tamato à Banbridge, a décidé de diversifier sa production avec la construction de cette ferme. En plus des chevaux, il y aura donc des moutons à Mataya. Encore faut-il les trouver. Les spécialistes avaient d'abord identifié une race très prometteuse, très résistante à la chaleur en Martinique, mais un problème sanitaire a empêché leur transport vers le Fénois. Ils ont ensuite été à Hawaï pour trouver une autre race tropicalisée qui doit transiter par Los Angeles et San Francisco avec un bout de route pour être livrée. Mais là aussi, c'est difficile au niveau administratif et au niveau logistique. Alors les prospections se tournent vers Eyao, petite île des Marquises, qui a une population de moutons résidente depuis près de deux siècles. Terry Alpha a aussi rappelé qu'il y avait des moutons à Metia, moins loin de Tahiti. Bref, les recherches continuent et pour l'instant, seuls 5 animaux prêtés par la famille Copenrad sont sur place. C'est un début, mais chez Mana Solar, on promet que le troupeau grandira vite.
Merci Charlie René, qui était en direct de Mataya pour l'inauguration de la deuxième grande ferme agricole solaire, ferme solaire du Fénois. Deux autres fermes doivent être lancées dans les semaines à venir par EDT du côté de Taravao.
Dans le reste de l'actualité, la réforme du gouvernement réglementant les SEM est passée ce matin au CESEC.
Oui, les SEM, ce sont les sociétés d'économie mixte à mi-chemin entre public et privé dans lesquelles le pays est actionnaire majoritaire. Il y en a 8 en Polynésie comme ATN, la Sofidep, la TEP ou encore TNTV. Leur conseil d'administration décide de comment est assurée la direction générale, soit par le président du CA qui porte ainsi le titre de PDG, soit par une autre personne nommée par le CA qui porte le titre de directeur général. Eh bien, le président de l'Assemblée a déposé début novembre une proposition de loi sur ce second point. On écoute Valdemar Delage.
Oui, une proposition qui vise à modifier le texte précédent pour stimuler que désormais le directeur général ne pourra pas être choisi en dehors des administrateurs ou des actionnaires de la société. Pour Tony Géros, on ne peut pas demander à un agent d'être juge et partie, c'est ce qu'il expliquait début novembre. Le texte précise que cette mesure vise à dissocier clairement l'aspect stratégique qui relève du conseil d'administration de l'aspect opérationnel de la gestion et de la réalisation des objectifs qui lui relève du directeur général. Et ce matin, le CESEC a donc rendu un avis favorable. Selon les conseillers, cette modification est pratique dans le sens où le directeur général doit être capable d'apporter une expertise indépendante. Le choisir en dehors des administrateurs apportera aussi plus de clarté dans les rôles de chacun. Le CESEC aimerait donc que les statuts types des SEM soient modifiés en ce sens. Il va aussi plus loin en souhaitant étendre ce dispositif aux différents établissements publics du pays.
Voilà, et à noter toujours au sujet des SEM que le CESEC demande aussi plus de transparence sur les politiques de rémunération. Il demande aussi plus d'attention au sujet de la qualité et des compétences des administrateurs recrutés, car selon l'institution, le problème de gouvernance dans une SEM réside surtout dans le fonctionnement même des conseils d'administration.
Au CESEC, toujours, Vaïtiéré, et les conseillers ne peuvent plus d'être saisis en urgence.
Oui, alors ils ont l'habitude, mais c'était particulièrement criant ce matin au moment d'aborder l'autre texte du jour. le projet de schéma de l'action sociale et médico-sociale. Un texte qui a été examiné selon une procédure d'urgence en 15 jours donc, ce qui limite forcément le temps de travail. Ce matin, les rapporteurs du texte ont eu bien du mal à répondre à toutes les questions qui étaient posées par les autres conseillers. Pour l'un d'eux, cela ajoute de la difficulté à la difficulté, surtout sur des sujets aussi cruciaux. Pour un autre, avoir si peu de temps pour rendre un avis crée des doutes et des suspicions. Par nécessité, expliquent les conseillers, un avis favorable unanime a toutefois été rendu sur ce projet de schéma directeur qui concerne les publics les plus vulnérables en reprenant essentiellement les travaux de l'ancienne mandature. Le CESEC retient notamment qu'il s'agit d'un schéma ambitieux mais avec des moyens insuffisants.
Le président de l'Assemblée, Anthony Giros, veut attaquer l'État sur la décolonisation.
Le leader indépendantiste a transmis deux textes aux élus de l'Assemblée, une proposition de résolution dans laquelle il demande officiellement à l'État d'ouvrir le dialogue de décolonisation avec la Polynésie sous l'égide de l'ONU. Vous le savez, la France refuse de transmettre des renseignements aux Nations Unies sur la Polynésie et refuse d'accueillir une mission de l'ONU à Tahiti. Et si jamais l'État gardait cette position malgré cette demande officielle de l'Assemblée, un deuxième texte est déjà prêt. Anthony Giros a aussi déposé une proposition de délibération pour être autorisé à attaquer l'État devant les juridictions nationales, internationales et les organismes de l'ONU. Anthony Giros veut tout simplement forcer l'État à se conformer aux décisions de l'ONU sur l'ouverture d'un dialogue de décolonisation. Aux élus de l'Assemblée de débattre de ces textes et de les adopter ou non.
Tematai Le Gaïc a parlé budget hier sur Radio 1 et Thierry FM.
Un budget qui sera examiné en séance plénière la semaine prochaine et le représentant Tavigny à l'Assemblée et membre de la commission de l'économie, des finances et du budget assure que la majorité indépendantiste est unie derrière son gouvernement. Même si les prochaines échéances électorales peuvent biaiser les débats et les choix, les prochaines municipales c'est en 2026 et déjà beaucoup d'élus y pensent. Mais justement le budget 2025 n'est ni démagogique ni électoraliste, sur donc Temat et Le Gaïc. Concernant la lenteur de la mise en œuvre des réformes promises par le Tavigny, pour lui, c'est le temps d'adaptation nécessaire à un parti qui n'a pas l'habitude d'être aux affaires du pays.
Le Tavigny Huir Atira, qu'on le veuille ou non, n'est pas un parti de gouvernement. C'est la première fois en 2023 que le Tavigny Huir Atira, dans son histoire, gagne des élections territoriales de manière très franche. Donc nous avons des ministres, des cabinets, des élus qui, dans leur grande majorité, à faire leur entrée pour la première fois dans le paysage politique polynésien. La difficulté, quand ce sont des personnes qui sont novices en politique, c'est qu'il faut un temps d'adaptation, de formation, et c'est ce qu'on est en train de faire. À côté, on a des oppositions qui ont de la bouteille.
Et justement, ces gens qui ont de la bouteille, ils ne comprennent pas que le gouvernement n'utilise pas la trésorerie. 51 milliards de francs selon l'opposition, 35 milliards sur le budget primitif. Temat Ey Le Gaïc parle d'entreprises en contentieux avec le pays et de marchés publics qui n'ont pas été passés pour expliquer les hésitations sur le chiffrage du report. Il défend le gouvernement, le budget est sincère et les projets honnêtes, dit-il. Le président du Tapoura, qui était l'invité de la rédaction, a naturellement contré les accusations. Accusation du Tavigny. Retrouvez son interview sur notre page Facebook et sur radio1.pf.
On continue à parler finances, celle des communes cette fois-ci.
Elles passent souvent un peu plus inaperçues, mais pourtant c'est une quarantaine de milliards de francs chaque année. L'AFD, l'Agence française de développement, sort chaque année l'Observatoire des communes pour prendre le pouls des 48 municipalités. Le dernier rapport a été officiellement présenté ce matin au lycée hôtelier et ce constat, les finances des communes vont plutôt bien, mais l'AFD s'interroge sur un fait inquiétant, la faiblesse du niveau d'investissement. Les précisions de Charlie René, écoutez.
Oui, en 2023, les communes du Fénois ont dépensé 11,3 milliards de francs en investissement. C'est 350 millions de moins qu'en 2022 et c'est même près d'un milliard en dessous du niveau de 2020 qui n'était déjà pas très élevé. Alors forcément, quand on investit peu, les comptes se portent bien. 149 jours de fonds de roulement en moyenne, 18,6 milliards de francs de trésorerie cumulée. Très confortable, juge l'AFD, qui rappelle tout de même que les investissements sont utiles pour améliorer les services publics, les routes, les réseaux d'eau dont les communes ont la charge, pour limiter les impacts sur l'environnement aussi, et puis avancer dans la transition énergétique et au passage pourquoi pas faire de l'activité et du développement économique sur ces communes. L'Agence nationale souligne poliment les importantes marges de manœuvre des collectivités mais invite tout de même les équipes municipales à changer de braquet.
Et pour investir, il n'y a pas 36 solutions, il faut piocher un peu dans les fonds propres et surtout, il faut emprunter.
Et l'AFD en sait quelque chose, puisque l'agence, en plus d'être créancière du pays à hauteur de 88 milliards de francs, détient près de 70% des encours de dette des communes polynésiennes. Mais il se trouve que cet encours est très peu élevé, 5,2 milliards. C'est 12,6% de taux d'endettement, là où les communes métropolitaines atteignent facilement les 75%. Le recours à l'emprunt s'est même encore effondré entre 2020 et 2023, moins 24%. Classique pour un début de mandat, qui plus est dans un contexte de crise sanitaire puis d'inflation. Mais l'AFD espère tout de même un rebond et invite les équipes municipales à revoir leur stratégie financière et à s'intéresser à toutes les gammes de prêts et d'accompagnement offertes par l'agence. Un message qui devrait être martelé ce mardi matin au lycée hôtelier devant 80 cadres et dirigeants communaux. Pour la directrice de l'antenne locale de l'AFD, Mounia Aïtovkir, le manque d'investissement n'est pas une fatalité.
Voilà le dernier observatoire des communes basé sur les comptes communaux 2022 et 2023 et qui fait l'objet de discussions avec les techniciens et les Tavanas.
Le pays veut mettre de l'ordre dans le tissu associatif du Fénois.
Et pour y parvenir, Nahima Temari, la ministre de la Jeunesse et des Sports, également en charge du développement associatif, a créé un comité de la vie associative. Sa mission, engager un travail coordonné entre ministères et représentants de l'État pour consolider les dispositifs d'aide existants. Il s'agit aussi de réussir à mieux organiser les initiatives en faveur des associations et d'ajuster les politiques publiques selon les besoins. Au total, plus de 9000 associations sont aujourd'hui recensées par la direction des affaires juridiques du Haut-Commissariat. Un chiffre impressionnant correspondant à une association pour environ 30 habitants, mais qui selon le ministère ne reflète pas la réalité puisque certaines sont en sommeil. Autant dire que le chantier est colossal pour tenter de faire un état des lieux sur le sujet. Une étude sur le bénévolat a été lancée en parallèle. Les explications de Nanihi Masson, conseillère technique au ministère, écoutez.
L'objectif, c'est de mettre en réseau aussi l'ensemble des référents pour la vie associative de Polynésie française. Donc, il y a 48 référents hein, pour 48 communes. L'idée, c'est de pouvoir les identifier, mieux dialoguer avec eux. On recense également un ensemble de dispositifs d'aide et de subventions hein, octroyées par le pays. L'objectif, c'est de présenter, de consolider les infos sur l'ensemble de ces dispositifs, l'ensemble de ces subventions, essayer d'un petit peu d'évaluer leur impact économique aussi et de présenter tout ça aux membres de ce comité.
Et puis, hasard du calendrier ou pas, ces initiatives coïncident avec la Journée internationale du